Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnelle et professionnelle et je suis ravie de vous accueillir ici. Si vous découvrez le podcast en deux mots, le principe est de vous apporter des sources d'inspiration au travers des rencontres que je fais avec des personnes qui viennent dans chaque épisode nous raconter leur histoire de vie. Enfin, je partage également avec vous des outils et techniques pratiques de développement personnel. L'objectif est de vous permettre d'apprendre à donner le meilleur de vous-même, à révéler votre potentiel et surtout à passer à l'action. Je vous rappelle que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et le partager si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. Enfin, et le plus important est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes ou un commentaire. Dans l'épisode que je vous propose aujourd'hui, nous allons parler management et bien-être au travail. Pour cela, j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer Franck Germain. Franck est aujourd'hui le PDG de la société Actif Copilote. Il est expert en pilotage d'entreprise et il accompagne les dirigeants et managers à mettre en place notamment la stratégie marketing et commerciale de leur entreprise au service du management des équipes. Dans cette interview, Franck nous raconte tout le chemin parcouru pour en arriver là, les différents postes stratégiques qu'il a occupés dans des grandes enseignes telles que Decathlon, Feu Vert, Intersport, et bien d'autres. Il nous raconte également les erreurs qu'il a lui-même commises en tant que manager et nous partage sa vision et ses conseils pour être un manager efficace. Un épisode donc extrêmement riche et je le remercie encore une fois pour le temps qu'il a bien voulu m'accorder. Sans plus tarder, je vous laisse donc en compagnie de Franck Germain et vous retrouve juste après cette interview. Bonjour Franck.
Bonjour Catherine.
Ça va bien?
Ça va, en forme.
Super. Mm-hmm. Écoute, merci d'être mon invité aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Je suis vraiment très contente de t'avoir sur ce podcast. Je t'ai sollicité parce que, comme je te l'ai dit, j'ai envie de faire un épisode autour du management, de l'entrepreneuriat, enfin de toutes ces notions-là. Et donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à toi.
Je t'en remercie.
Et avant de vraiment de rentrer dans ces sujets très précis, est-ce que tu pourrais s'il te plaît commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, d'où tu viens, enfin voilà, nous présenter qui tu es.
Alors Franck Germain, j'ai 54 ans, je suis marié, père de 4 enfants, rémois d'origine. Mm-hmm. Mon parcours professionnel, ça a été 30 ans dans les grandes surfaces spécialisées. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 ans, je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait Decathlon. C'était un des nouveaux concepts qui se mettaient en périphérie, à côté des hypermarchés. Mm-hmm. Parce qu'il y a 30 ans, les commerces étaient en centre-ville.
Mm-hmm. On ne connaissait pas encore les zones...
ça n'existait pas.
Les zones comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on est proche de Reims. Enfin, on est à Reims même, d'ailleurs. Mais toutes les zones comme Cormontreuil, etc., ça n'existait pas.
Non, le magasin dans lequel j'étais, hein, le premier magasin Decathlon à Cormontreuil, le matin où je venais, il y avait un agriculteur qui passait avec son tracteur qui faisait le tour du magasin.
D'accord.
La plupart
ça a
des
bien
gens,
changé. Notre...
Ah oui, oui.
Ça a bien changé.
Aujourd'hui, les agriculteurs sont bien loin. Mais voilà, c'était les balbutiements des grandes surfaces dans lesquelles il y avait des périodes pionnières. Voilà, mm-hmm. Il y avait tout à inventer, il y avait tout à créer. Et ça m'a passionné, donc je suis entré responsable de rayon, directeur de magasin, ensuite j'ai évolué dans d'autres entreprises, directeur régional, directeur commercial et marketing, et
donc
directeur
général. Donc c'est Decathlon la première
Ma première école, ça a été Decathlon, formidable expérience de management, parce que justement je me suis retrouvé à 26 ans, j'étais directeur de magasin, j'avais 110 salariés.
À 26 ans,
ouais.
Directeur d'un magasin Decathlon avec 110 salariés sous
oui.
ta responsabilité.
Oui.
Comment on fait pour arriver à 26 ans directeur de magasin?
La chance, être au bon endroit au bon moment, bosser un peu évidemment.
Mais quelle formation tu avais fait pour ça?
École de commerce.
D'accord. Voilà. Précisément ce que tu voulais faire en sortant de cette école de
oui.
commerce?
Oui, parce que j'avais fait un stage dans lequel j'expliquais la mort des magasins du centre-ville. Pourquoi d'accord. les magasins du centre-ville allaient mourir et pourquoi les grandes surfaces qui commençaient à poindre leur nez allaient se développer. Donc naturellement j'allais pas aller dans le commerce en centre-ville, il fallait que j'aille dans le commerce en périphérie. Il y avait cette petite boîte où j'avais rencontré le directeur de l'époque du magasin qui m'avait séduit, beau gosse, bronzé, passionné de sport. Ah, c'était pas un métier dans lequel je rentrais, c'était je rentrais dans les loisirs quoi. Donc c'était passionnant.
Tu étais toi-même passionné de sport à ce moment-là?
Oui, j'ai fait du sport à haut niveau, on va dire. Voilà.
Quel type de sport?
Alors, des sports de combat, des sports de glisse, le ski. Et puis, en étant chez Decathlon, j'ai découvert le VTT parce que ça, J'ai vendu les premiers VTT en France, parce que ça n'existait pas. Il n'y avait que le vélo de course qui existait. Puis d'un seul coup, des vélos bizarres sont arrivés, avec des pneus bizarres, avec des systèmes de passage de vitesse bizarres. Voilà, donc ça m'a passionné, j'en ai fait. Et puis les premiers championnats de France se sont ouverts, j'en ai fait. Étant donné que je suis un peu lourd, je me suis mis à la descente, ce qui est beaucoup plus facile pour moi. Et donc j'ai fait les premiers championnats de France de descente de VTT.
Quoi. D'accord. Et alors, tu es arrivé combien à ces championnats de France ?
On ne va pas parler de classement.
D'accord. Non. Comme tu veux.
Non, c'était pour le loisir. C'était vraiment
pour le
plaisir.
Ouais, par plaisir. Et puis quand bien même, peu importe le classement, tu y as participé.
Ouais, c'était passionnant. Voilà. Il y avait à la fois, c'était encore une fois une époque pionnière. Il y avait tout à inventer. Il y avait une équipe de barjots qui s'amusait à descendre. On n'avait pas de casque au début. Ensuite, on a mis des casques. Ensuite, on a mis des protections. Bref, il y a toute une histoire qui s'est créée. C'était amusant, c'était sympa.
Donc ça t'a accompagné aussi dans ta fonction de directeur de magasin chez Decathlon ?
Oui, parce que d'abord ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait ce monde du vélo. C'est un monde d'équipe dans lequel on a des projets, on monte des projets, il y a de l'exigence parce que quand on fait une descente, il faut faire des... on va faire des points d'observation pour savoir où on passe, comment, etc. Il y a toute une école d'apprentissage qui se fait et qu'on retrouve dans tous les métiers. Quoi. Au début, il y a le faire, savoir-faire, faire-savoir, savoir-faire-faire, les étapes classiques, mais qu'on retrouve dans le monde du sport aussi. Quoi. Voilà, donc oui, effectivement, ça a été une école sympathique. Quoi.
D'accord.
Voilà. Et donc, pour terminer, j'étais directeur général d'une grosse entreprise qui a des magasins un peu partout en France et en Europe.
Toujours dans le domaine du sport ?
Non, là, j'ai fait le sport, l'automobile, de nouveau le sport avec Intersport. C'était la Hutte, quand je suis arrivé, ça s'appelait la Hutte.
À l'époque, c'était la Hutte, effectivement.
Petit magasin du centre-ville. Et là aussi, le PDG m'avait dit, il va rechercher quelqu'un pour écrire un concept de magasin de périphérie. Ayant eu une première expérience chez Decathlon, naturellement, je suis rentré chez Intersport pour écrire ce nouveau concept qui a été salué par le Janus du commerce en 2008, ce qui veut dire le meilleur concept en France. Et ça a été 10 ans extraordinaires de rencontres, d'apprentissage, de la communication.
Parce que là, effectivement, tu étais sur la partie vraiment marketing et communication commerciale.
Commerciale, c'est l'approche conceptuelle. Donc, c'était vraiment à la fois un positionnement commercial, communiquer sur ce positionnement-là, et toute une approche conceptuelle, un magasin, comment on va l'organiser, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va le structurer, comment on va le rendre plaisant pour le client, simple et plaisant. Et puis aussi toute l'approche managériale par le biais de formations qui ont été mises en place. Parce que dans l'approche conceptuelle, on voulait des personnes 35 heures, sportifs, qui aient une identité de coach. Et pour ça, il fallait développer un certain nombre de formations. Et puis, ça a été beaucoup de management parce que les chefs d'entreprise qui découvraient aussi ce métier-là n'étaient pas rompus à avoir 15 salariés. Puis après, ils avaient deux magasins dans lesquels il fallait mettre des
directeurs. C'est-à-dire, quand tu dis les chefs d'entreprise, c'est les directeurs de magasins ?
Oui, alors c'était une coopérative. Donc, ce sont des patrons dans les entreprises. C'est leur argent qu'ils mettent sur la table. Donc, derrière, on les accompagne. Ils ont un degré d'exigence qui n'est pas forcément celui d'un simple salarié. Parce qu'ils ont leur maison qui est hypothéquée.
Ils sont vraiment des chefs d'entreprise, effectivement. Okay.
C'est ça. Poste de directeur général, il y a 2 ans et demi, arrivé à 50 ans, j'ai eu ma petite crise. un peu fatigué d'être en voyage permanent, d'être parti du lundi au vendredi. J'ai voulu poser un peu mes valises pour revenir vers du local et puis aller vers des gens dont je me sens plus proche, parce que un besoin ponctuel, une action ponctuelle, et derrière un résultat qui va se faire ressentir immédiatement dans l'entreprise.
D'accord. Donc d'être plus dans la proximité, dans le pragmatisme, c'est ça,
et d'être... Oui, et puis dans l'humain. À partir du moment où vous êtes dans des grands groupes où il y a jusque 14 000 personnes pour Intersport... la notion de l'humain n'est pas du tout la même que quand j'interviens dans une entreprise de 5, 10, 15 salariés. La dimension n'est pas du tout la même. Et moi, c'est cette dimension-là qui me faisait rêver. Du coup, j'ai créé ma société, donc il y a maintenant 2 ans et demi.
D'accord, ok. Voilà. Donc, cette société, elle s'appelle
Active Copilote.
Oui. Active Copilote, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement, quelques mots?
Oui, je me spécialise dans tout ce qui est... Donc, mes clients principaux, c'est des TPE, de 0 à 20 salariés.
Tout secteur confondu,
oui. Okay. Que ce soit l'industrie, le commerce, l'artisanat,
les services.
Parce que je me suis spécialisé dans tout ce qui est stratégie de communication. Donc, ça s'adapte à tout secteur d'activité. Et l'approche managériale, et là aussi, ça s'adresse à tout secteur d'activité.
D'accord. Alors, pour exercer aujourd'hui cette fonction-là, où tu fais du conseil, de l'accompagnement, hein, c'est ça ? J'imagine que tu capitalises finalement sur tout ce que tu as appris pendant ton parcours et tes différentes expériences, notamment. Quels ont été les grands enseignements dans ton parcours et comment tu rebondis dessus aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu prodigues comme principaux conseils en termes de communication, en termes de management
Alors, évidemment, 30 ans, ça forge une personne, dans le sens où les boulettes que je devais faire, je les ai faites.
D'accord.
À 26 ans, je disais, être directeur, avoir 110 personnes à manager, ça nécessite de la formation, mais à 26 ans, c'est l'âge où on fait des boulettes. Et je les ai faites un peu tout au long de ma vie, d'ailleurs. Et c'est ce que je dis très souvent aux chefs d'entreprise avec qui je travaille. Les boulettes, tu les fais, mais tu vas arrêter de les faire parce que moi je les ai déjà faites, je sais que ça marche pas, donc on va passer au stade suivant. Quoi.
C'est-à-dire que tu partages tes boulettes avec eux,
oui.
En leur disant ça, je l'ai fait, ça marche pas,
oui.
Donc fais pas ça.
Oui.
D'accord.
Oui, oui. Parce que ça, ma vie professionnelle a été beaucoup basée dans le concret. À partir du moment où je travaillais avec des indépendants, en franchise ou en coopérative, il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. Et j'avais pas beaucoup la place pour intellectualiser trop. Je suis pas un théoricien. Ceci dit, je me suis entouré de beaucoup de théoriciens parce que c'est eux qui sont des gens qui ont une certaine vision, des informations qu'ils partagent et qui vous font grandir. Et c'est à la fois cette partie concrète, mains dans le cambouis, ce partage avec des coachs. J'étais coaché aussi par des professionnels reconnus au niveau France et Europe, et qui m'ont fait grandir. Et ce mix des deux, théorie, pratique, aujourd'hui, je l'ai un peu assimilé avec 30 ans d'expérience, et ce qui me permet d'intervenir auprès de ces chefs d'entreprise de façon simple, naturelle, illustrée d'ailleurs, très souvent, sans se prendre plus la tête que ça, parce que on fait tous des boulettes, on fait tous des erreurs. Mais voilà, quoi, on le partage, je cherche à l'humaniser au maximum pour le rendre simple et accessible. Et c'est ce qui, je pense, plaît beaucoup.
J'ai vu récemment que tu avais publié sur les réseaux sociaux des éléments par rapport sur le thème du management efficace. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est quoi pour toi aujourd'hui le management efficace ?
Alors, c'est simple.
Ça déjà c'est une bonne nouvelle.
Ouais, effectivement. Parce que derrière le mot management, c'est un peu comme derrière le mot marketing, on y met un peu tout et n'importe quoi. Et puis il y a des mots qu'on entend depuis 30 ans, il faut remettre l'homme au centre de l'entreprise, et on s'aperçoit que c'est pas toujours la réalité, quoi. Et le management efficace, c'est quoi ? C'est l'association d'un chef d'entreprise ou d'un manager avec un manager. Donc c'est une histoire humaine. Cette histoire humaine, c'est l'association pour moi de deux projets. L'entreprise, elle est porteuse d'un projet, un objectif. Comme une équipe de sport, il y a un objectif. On est en deuxième division. L'objectif, c'est de monter en première division d'ici 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'est le projet de l'entreprise, l'entrepreneur. Et il y a le projet du salarié. Il a un projet personnel, ce salarié. Il le connaît plus ou moins, d'ailleurs, généralement. S'il est jeune, il ne le connaît pas trop parce qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Un métier, et puis à découvrir sa propre personnalité. Mais en tous les cas, il faut aller chercher son projet personnel. Et derrière, c'est l'association des deux projets. Projet individuel, projet de l'entreprise. Tout ça dans un mix qu'on appelle une équipe. Et c'est identifier ces projets et les mettre en commun.
D'accord. Voilà.
Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. À partir du moment où ça c'est dit, le chef d'entreprise dit quel est son projet, le salarié dit, lui, ce qu'il voudrait, comment il veut se réaliser, où il veut se réaliser, 80% du boulot est fait. Mais il faut le dire. Et c'est toujours la chose.
Il faut le savoir déjà pour le dire.
Il faut
aussi.
Le savoir. Ouais, c'est juste.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, dans ton expérience de manager en tant que tel ou dans ton expérience de conseil et d'accompagnement aujourd'hui, de rencontrer des gens, que ce soit des entrepreneurs ou des soit les managers, soit les managers, ne pas savoir?
Dans 80% des cas, c'est comme ça.
Et les gens ne savent pas.
Ils ne savent pas parce qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il lance son entreprise, il a une compétence, il a une connaissance, il a une expérience dans un domaine bien particulier. Il lance son entreprise et il s'aperçoit que ce qu'il sait faire, il ne le fait plus. Parce qu'il faut qu'il sache être juriste, il faut qu'il soit spécialiste des RH, il faut qu'il soit comptable, il faut qu'il soit
analyste financier,
il faut qu'il soit stratège en communication. Quoi. Il y a 1000 métiers. Et là, c'est d'abord, c'est souvent une première désillusion. Et après, bah, c'est soit on s'entoure de gens qui ont les compétences,
qui savent,
soit on se débrouille tant bien que mal en faisant confiance au temps pour résoudre les différents problèmes.
D'accord.
Donc effectivement, c'est quel est mon projet ? C'est la première question qu'on devrait se poser.
Et pour d'un point de vue individuel, pour le manager, si lui, il n'a pas de projet, comment tu abordes le sujet ?
Alors, ça fait partie des techniques d'entretien individuel. C'est le management, ça commence au recrutement. C'est voilà le profil que je recherche, l'expérience, le profil de la personne. En entretien, vous devez chercher à déceler ses profils, ses compétences, ses expériences et cette personnalité.
Est-ce que ça correspond bien aux besoins à l'instant T de l'entreprise ?
Ouais.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ouais. Le gars, il est bon en basket, mais j'ai une entreprise de foot, tant pis, je ne peux pas le prendre. Quoi. C'est pareil pour un artisan, quelqu'un qui est peintre, on lui demande d'être électricien, non, t'as pas le profil, quoi. c'est pas bon. Donc il faut identifier les profils, ça c'est la première partie du recrutement, donc ça veut dire qu'il y a une sélection. Une fois qu'on a fait la sélection, c'est de l'animation autour de ce projet individuel et ce projet d'entreprise, quoi. Et ça, c'est par le biais à la fois d'entretiens individuels ou d'entretiens professionnels, donc les entretiens annuels d'activité qui se font une fois par an.
Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire coïncider les deux projets, c'est ça ?
Oui.
C'est ça, un management efficace ? C'est de faire coïncider les deux projets.
Oui. Faire coïncider. Je reprends l'exemple du club de foot. Si la personne n'a pas envie de progresser et elle n'est pas dans le souci de se dire « Tiens, je suis en deuxième division, effectivement, le projet de monter en première, donc mon degré d'exigence, je dois le développer », ça va devenir ce qu'on appelle un boulet. Par contre, le club, lui, veut rester en deuxième division, il est bien là où il est, etc. Les personnes sont stables, elles progressent, etc. On n'est pas tous des compétiteurs dans l'âme.
Bien sûr.
Mais le tout, c'est de se dire « Quel est le projet de l'entreprise ? Je suis en phase avec ce projet-là, ça me va. »
Alors, comment tu fais quand les deux ne sont pas compatibles ? Parce que justement, là, tu parlais par exemple de quelqu'un qui pourrait ne pas avoir envie de grandir. Tu peux avoir des gens... alors, par exemple, moi, j'ai déjà vu ça dans les entreprises industrielles, où, par exemple, l'entreprise a pour projet de faire monter en compétences tel et tel profil, tel et tel poste, parce que ça répond à un besoin par rapport à différentes choses, peu importe. Et puis finalement, si tu regardes d'un point de vue individuel, les gens qui sont à ces postes-là n'ont pas forcément envie d'évoluer, aussi pour des raisons qui sont très propres, parce que leur projet individuel ne correspond pas à une évolution, et voilà. Comment tu fais pour... Là, il y a clairement une incompatibilité entre le projet de l'entreprise et le projet individuel. Comment tu fais clairement pour accompagner ce type de situation ?
Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle des gens qui ont un fort potentiel de développement et des gens qui n'ont pas de fort potentiel de développement.
Il n'y a pas de jugement de valeur dessus.
Il y a des gens, ils sont bien dans leur métier, ils font bien leur métier, ils n'ont pas envie d'évoluer parce que leur vie familiale et leur vie personnelle, leur vie professionnelle, tout ça, ça coïncide parfaitement bien.
C'est une vraie richesse. Tout à fait.
C'est une vraie richesse pour l'entreprise et donc, il faut... les bichonner, ces gens-là. Quoi. Ils sont importants. C'est un peu les piliers de l'entreprise, parfois, même si on n'en a pas conscience. Quoi. Donc ça, c'est un profil. Ensuite, il y a l'autre profil dont tu parles, les gens qui sont plutôt évolutifs. Et dans le cadre d'une entreprise qui se doit d'évoluer parce que le marché évolue, parce qu'il y a un concurrent qui évolue, etc., ces gens-là, il va falloir les briefer, il va falloir les animer, il va falloir les coacher, pour que de façon à ce que leur talent permettent de faire évoluer effectivement l'entreprise. Donc les deux profils sont nécessaires. Maintenant, si l'entreprise se doit de changer parce que y a un réel de risque pour le groupe. Là, je ne parle plus d'individu. Il y avait l'individu
pour
tout à l'heure, il y a le chef d'entreprise, et maintenant, on parle collectif. Il peut arriver qu'il y ait un concurrent qui arrive, il y a un marché qui soit en train de disparaître, un nouveau marché apparaît. L'entreprise doit se repositionner. Et là, c'est le collectif qui doit primer. Si l'individu se refuse de comprendre que le collectif a des obligations qui sont supérieures aux siennes, dans ce cas-là, il faut le dire, il faut en parler, il faut l'exprimer. Et voilà, aujourd'hui, tu n'es plus en phase avec l'entreprise, tu n'es pas en phase avec l'équipe, tu n'es pas en phase avec le projet, donc ça pose souci. Et à partir de là, il faut accompagner la personne sur la recherche d'un autre emploi. Ça fait partie, je sais bien que ce n'est pas très populaire quand on dit ça, surtout en France, mais ça fait juste partie de la vie réelle, quoi. Le groupe prévaut sur l'individu.
D'accord.
C'est le jeu d'une équipe, quoi. C'est ma conception.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Je reste un peu sans voix. Non pas que je suis choquée, mais parce que ça me fait réfléchir, justement. Et effectivement, moi, je partage relativement cette idée-là. Mais effectivement, c'est assez impopulaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'en France... il y a une sorte d'acquis quand on fait partie d'une entreprise, sauf à avoir fait une faute ou avoir commis une erreur, on a du mal à se dire bon bah là je suis plus en accord avec le collectif, donc c'est pas à l'entreprise à répondre à moi individuellement à mes besoins, c'est à moi soit à m'adapter au collectif, soit à me dire dans ce cas là je vais chercher un autre collectif ailleurs qui corresponde à ce que moi je veux individuellement, c'est ça ?
C'est ça. Exactement. Je pense que globalement, par le système éducatif français, on n'a pas l'habitude de travailler en groupe, en équipe. Du coup, on est dans une société très individualisée et donc individualiste. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'entreprise ne se plie pas aux desiderata individuels des gens. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie ne marche pas comme ça. Donc ça génère des conflits, hein. Ça j'en suis bien conscient. Ça fait 30 ans, 40 ans que... Je vois des conflits à droite et à gauche qui se font de plus en plus sur des problèmes individuels. Quoi. Mais la réalité, encore une fois, pour moi, c'est le collectif doit primer sur l'individu. C'est la survie du groupe est plus importante que la survie de l'individu. Quoi.
Mais en même temps, l'entreprise, elle a bien une responsabilité quand même vis-à-vis des individus, vis-à-vis de leur bien-être, de leur épanouissement, de leur bien-être, de leur bonheur au travail.
Collectivement. Collectivement ou individuellement, tu parles ?
Ben, moi, je parle individuellement aussi.
Là, on n'est plus dans le cadre de la personne qui se met en opposition par rapport au groupe. Individuellement, ce que je dis régulièrement et depuis... parce qu'on me l'a dit aussi il y a 30 ans, on a dit à partir du moment où tu es responsable, tu as une responsabilité managériale, tu es responsable d'âme. Ça veut dire quoi, responsable d'âme ? Ça veut dire que non seulement tu as la personne qui est en face de toi, mais derrière lui, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a son mari, il y a sa famille. Tout ça, c'est de la responsabilité du manager. Donc, c'est pas rien, ça. Et ce qui est important, c'est ce que je disais en préambule, c'est une histoire humaine, le management. C'est-à-dire que l'histoire humaine, c'est de dire, je vais faire en sorte que la personne trouve sa place dans l'entreprise. Où sont ses vrais talents ?
D'accord.
À 20 ans, qui sait où sont ses vrais talents, quoi. Bon, y a Mozart, il le savait peut-être bien. Il y a des grands sportifs, ça va. Mais la plupart d'entre nous, on ne sait pas à 20 ans.
À 20 ans, même parfois à 40 ou à 50, on a peut-être une idée un petit peu plus précise. Mais...
D'où le problème des burn-out. Gens, ils font pendant 20 ans un métier qu'ils n'aiment pas faire. Quoi. Et ça fait partie pour moi du métier de manager. C'est déceler chez la personne quel est son vrai profil. Quelles sont ses vraies appétences ? Quels sont ses vrais...
talents.
La plupart des footballeurs, ils veulent être numéro 10. Mais ils ne sont pas tous numéro 10. C'est-à-dire qu'il y a des capacités cognitives, des capacités spatiales, repérage spatial à avoir, qui sont particulières. Ils peuvent très bien être à l'arrière. C'est moins valorisant, c'est moins valorisé. Mais derrière, s'ils s'épanouissent à la poste d'arrière ou de gardien de but... Là, ils vont devenir sublimes.
Très bon.
Et ça, c'est le but d'un chef d'entreprise ou d'un manager.
Et comment il fait alors, pour toi, le manager, pour détecter les talents, justement, individuels ? En tout cas, comment il doit faire ?
L'entretien individuel, on détecte. Derrière, c'est faire parler la personne. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Comment tu fais ? Explique-moi comment tu as réussi. Explique-moi pourquoi tu n'as pas réussi. Peut-être que tu n'as pas l'expérience, peut-être que tu n'as pas les compétences. Peut-être qu'il faut que je fasse les formations. Et peut-être que tu n'aimes pas ça. Donc, tu dois faire autre chose. Tu pensais que tu étais un très bon commercial, mais tu n'es pas un bon... commercial, parce que t'es pas à l'aise en public. Mmh. T'es pas à l'aise avec une personne en face de toi. Par contre, t'es très structuré, très structurant. Eh ben, tu vas nous aider à structurer, à organiser des tournées. Voilà. Mmh. Voilà.
Parce que pour moi, dans l'absolu, il peut y avoir plusieurs choses. C'est aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise, mais est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu aimes? Ou est-ce que tu as envie de le devenir? Et auquel cas, le fait de ne pas être à l'aise aujourd'hui, c'est pas une problématique en soi. Ça s'acquiert, hein, devenir à l'aise. Hein. Oui. Mais c'est est-ce que je ne suis pas à l'aise aujourd'hui et j'ai pas envie de le devenir parce que j'ai pas envie de le faire et je n'aime pas ça.
C'est détection des compétences. Mmh. Motivation, mmh. Compétences. Mmh. Et alors après, là, on rentre dans des parties un peu plus techniques. Hein, c'est le profil des personnes. Quoi. Mmh. On a des profils différents. Aujourd'hui, les neurosciences nous aident beaucoup. La programmation neurolinguistique nous aide beaucoup là-dessus.
Il existe des outils. En fait,
voilà, il existe des outils. Mais là, on est dans ma partie sur laquelle j'agis. Mmh. Ça, c'est en off. C'est-à-dire que je ne vais pas en parler au chef d'entreprise. Parce que c'est trop technique.
Et puis, c'est pas forcément accessible. Et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Hein, mais c'est pas forcément accessible à tous les managers. Enfin, je veux dire, c'est pas des outils qui se maîtrisent comme ça. Du jour au lendemain, on n'est pas en train de parler d'un tableau Excel, quoi. C'est plus complexe que ça. Oui. C'est ça que je veux dire.
Voilà. Okay. Moi, l'objectif, quand j'interviens, c'est que ça marche. Je n'ai pas le choix, il faut que ça marche. Même si, juridiquement, je n'ai pas d'obligation de résultat. Mais je veux que ça marche. Quoi. Demain, vous faites intervenir un paysagiste chez vous. Vous voulez quelque chose de joli, qui soit agréable à voir. Il y a toute une partie technique que vous n'allez pas voir, mais le résultat, il va être superbe. Voilà, c'est tout ce que vous voulez. Moi, quand j'interviens, c'est pareil, il y a une partie technique dont je n'ai pas parlé parce qu'il n'y a pas d'intérêt. L'essentiel, c'est que là où il y avait un problème humain, il soit résolu.
Et donc, pour toi, la base, la priorité, en termes de management, et quand il y a un problème humain, comme tu dis, à régler, c'est de faire coïncider le projet de l'entreprise, le projet du collectif et le projet individuel.
Ah ouais,
c'est
fondamental.
Ça. Quel type de manager, toi, tu étais pendant tes 30 années d'expérience?
Je pense, alors, de mon profil, c'est ce qu'on appelle un leader. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'aime avoir ce qui va se passer dans 5 ans, j'aime mener des projets. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de sport, un peu de compétition, mais les sports un peu pour les foufous, quoi, les extrêmes, les sports
D'accord.
extrêmes. Quoi.
Okay.
Et j'adorais ça. Quoi. Et dans mon management, au début, j'étais comme ça. Je ne comprenais pas que les gens ne me suivaient pas. Donc, je devenais mauvais.
Que
celui qui est stable, qui aime bien les choses structurées, organisées, méthodiques, mais il ne me comprenait pas. Et puis moi, je ne le comprenais pas. Et du coup...
Tu étais un peu le TGV et tu laissais les gens sur le quai de la gare?
Ouais, alors quand je ne repassais pas dessus, ouais.
D'accord.
Bien tout honneur, mais...
J'imagine.
Non, j'étais vraiment... Je manquais complètement de recul, de diplomatie, de tolérance. Parce que je ne comprenais pas l'autre, tout simplement. Donc j'y allais avec ma personnalité un peu extrémiste et du coup j'ai fait beaucoup de mal à un certain nombre de personnes sans m'en rendre compte.
Disons que c'était pas volontaire, c'était vraiment parce que pour toi c'était pas ça rentrait pas dans ton schéma de fonctionnement, dans ton schéma de pensée.
Ouais. Pour moi c'était la solution que j'avais était forcément la bonne, donc les gens devaient me suivre.
D'accord.
Et je comprenais pas qu'ils me suivent pas. Et quand ils me suivaient pas, ils comprenaient vite que
n'étaient
pas copains.
D'accord.
Voilà.
Et parce que là tu parles au passé, donc ça a dû changer à un moment donné.
Oui.
Tu peux m'expliquer ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as pris conscience de ça? Parce que tu n'en avais pas conscience à ce moment-là,
non,
on est d'accord?
Absolument pas, non.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en prennes conscience?
À la fois de l'expérience de vie où je me suis rendu compte après coup que j'avais blessé des gens. Et les valeurs humaines dans ma culture sont extrêmement importantes et je comprenais que j'étais pas en phase avec mes valeurs humaines. Je prêchais des choses et j'agissais pas de la même façon. Donc ça m'a posé question. Et après j'ai fait beaucoup de formations. J'étais formé par des écoles de managers. Je suis devenu formateur dans les différents postes dans lesquels j'ai pu passer.
Mais quand tu dis j'ai pris conscience que j'ai blessé beaucoup de personnes, est-ce que par quoi elle est passée cette prise de conscience? Est-ce que c'est des gens qui te l'ont fait remarquer? Tu t'en es rendu compte tout seul? Enfin, comment ça s'est passé? Parce que ça nécessite quand même une vraie remise en cause. Enfin, c'est du coup un vrai questionnement qu'il faut faire vis-à-vis de soi-même. Mais c'est pas forcément évident. C'est pas simple et c'est pas donné à tout le monde. Hein, moi, avoir traversé plusieurs entreprises, j'en ai vu hein, des personnes qui ont ce profil-là, un peu de leader et qui veulent foncer un petit peu en mode rouleau compresseur, mais parce que pour eux, c'est positif et c'est pour le bien de l'entreprise. Et on ressent qu'il y a une difficulté à se remettre en cause et à comprendre l'autre. Quand tu dis « je m'en suis rendu compte », comment tu as fait pour t'en rendre compte ?
Alors, c'est les gens qui m'entourent qui m'ont aidé à me rendre compte. Hein. Parce qu'on est aveuglé quand on est comme ça.
Et on est persuadé.
On est persuadé, on ne comprend pas l'autre. Par contre, il y a des choses qui m'amènent. J'ai des valeurs par mon éducation, ma culture, ma philosophie. J'ai un certain nombre. J'ai des valeurs qui sont très humanistes. Et les gens qui étaient le plus proche de moi, qui me connaissaient bien, me disaient « Mais Franck, tu ne te rends pas compte du mal que tu fais aux gens. »
Ce qui, en réalité, n'est pas compatible avec toi, avec tes valeurs.
Oui.
Ok.
Et comme c'était des gens pour qui j'avais beaucoup d'affection, j'ai dit « Mais ça veut dire quoi ? Explique-moi ce que ça veut dire, parce que moi, je veux faire du bien quoi, aux gens. » Et ils m'ont expliqué tous, quoi, différentes personnes... Tu sais, il y a des belles, ce qu'on appelle des belles rencontres dans la vie.
Ouais, j'allais t'en parler.
Et ça fait partie de ces belles rencontres où j'ai eu beaucoup de femmes, en l'occurrence, certainement qui ont une sensibilité, qui ont su me parler en trouvant la corde sensible, quoi. Mais tu prêches des valeurs et derrière, tu as fait mal à cette personne-là en étant comme ça. Il faut que tu comprennes qu'elle n'est pas comme toi, quoi. Et quand on vous le dit une fois, deux fois, trois fois, à des moments différents de la vie...
Ça génère des prises de conscience ?
Oui, exactement. Ça vous fait grandir. Moi, ça m'a fait grandir. Parce que j'ai une ouverture sur l'autre qui est devenue... Pour moi, c'est extraordinaire, ce passage de l'âge de 20 ans, on est tout fou, etc. Et c'était très bien que je sois comme ça. Vraiment, c'était très bien. À aujourd'hui, 50 ans, où je vois les choses complètement différemment. Et... Très souvent, je dis aux gens avec qui je travaille, pour un même sujet, il y a quatre personnes qui sont en face de moi, je vais dire les choses de façon différente à chacune. Quoi.
Sera le même,
oui.
L'idée principale sera la
oui,
même,
mais la façon de le dire
sera adaptée aux quatre personnes que tu auras en face de toi.
Ouais. Et là, ça devient passionnant. Parce que l'objectif, c'est toujours le même, c'est de faire progresser les gens avec qui je travaille. Ils ont un problème, ils m'appellent, on fait un diagnostic, et il faut trouver la solution. Mais la solution, si je dis à quelqu'un d'organiser, structurer, méthodique, tu vas voir, on va faire péter la baraque, etc., il va me regarder, il va me prendre pour un fou. Donc, le message ne passera pas, il ne sera jamais mis en place. Quoi. Par contre, si je lui dis, avec son langage, voilà, on va mettre en place, dans un premier temps, telle chose, ensuite, on va mettre ça en place, ensuite ça en place, derrière, la personne... est en phase avec mon discours, se sent bien, et va le mettre en place. Voilà. Encore une fois, mon objectif, c'est qu'il y ait un résultat. Et donc, pour ça, il faut que je puisse adapter mon langage à la personne qui est en face de moi. Et c'est ces 30 ans d'expérience, même plus, parce que très jeune, à 14-15 ans, j'avais des responsabilités. Voilà,
quoi. Et on apprend toujours, de toute façon, en termes de relations humaines. On apprend, je pense, jusqu'au dernier jour de sa vie, on apprend.
Oui.
Tu nous as dit, j'ai été formée, j'ai été coachée, j'ai été accompagnée, notamment sur la partie management, pas que, hein, mais aussi sur cette partie-là. Quel est le conseil le plus marquant pour toi qu'on t'ait donné en termes de management ? Le ou les, est-ce qu'il y en a plusieurs qui t'ont marqué précisément ?
C'est un moine.
Un moine ?
Ouais.
D'accord.
Tu vas me dire, je parle de quoi ? C'est un moine qui m'a dit aime les gens. Et il me l'a dit, c'est bateau, tu vas me dire, ce genre de phrase-là. Mais quand tu es dans un lieu, dans un environnement, dans un état d'esprit, et que la personne qui est en face de toi, tu la connais depuis quelques années, te dit ça, voilà. Ça a été un moment où il m'a dit aime les gens, quoi. Parce que j'avais l'esprit torturé, hein. Comment je dois faire, je sais plus, je rentre en conflit, donc j'étais un peu...
Tiraillé entre qu'est-ce que je fais, valeurs, etc.
Et il m'a dit, aime les gens.
Et alors ça
a été un acte fondateur, c'était une parole fondatrice.
Ça a déclenché quoi chez toi en termes de... Ça a eu quelle incidence en termes de comportement ou dans tes pratiques managériales ?
L'ouverture, j'ai commencé à regarder les autres. J'ai commencé à les observer, à regarder comment ils vivaient, comment ils réfléchissaient, pourquoi ils étaient différents de moi, simplement. Quoi. Voilà.
D'accord.
Donc tolérer qu'on soit différents.
D'accord.
Les uns des autres.
Parce que aimer, c'est tolérer. Et ouais. Du coup, c'est ce genre de conseil aussi que toi, ou d'enseignement que tu donnes aujourd'hui quand tu accompagnes des gens sur des problématiques de management.
Alors, je ne l'exprime pas comme ça. Mais c'est le fond du message.
Alors, comment tu vas l'exprimer ? Aujourd'hui, les principaux conseils, toi, que tu donnes en termes de management, ce seraient lesquels ? Pour être un manager efficace aujourd'hui ?
C'est accepter l'autre dans sa différence, première chose. Deuxième chose, c'est parler, échanger sur mes objectifs. J'en reviens toujours, mon projet, c'est celui-ci. Et toi, ton projet, c'est quoi ? Si tu ne vois pas, on va bien le travailler ensemble. Quoi. De façon à ce que tu sois à la bonne place et que tu puisses t'épanouir dans ce que tu fais. Hier après-midi, et j'étais avec dans une entreprise dans laquelle j'ai mis en place ce genre de démarche-là pendant un an. J'ai revu tous les salariés un par un pour faire un point un an après. Quoi. D'une entreprise dans laquelle il n'y avait pas d'animosité, mais il n'y avait aucune passion. Quoi. Aujourd'hui, les gens que j'ai rencontrés, il y en a un qui me disait, voilà, j'ai l'impression d'être dans une famille, dans ma famille. Quoi. On m'aide, on s'aide tous les uns les autres, et je grandis tous les jours avec ma famille. Quoi. Il me l'a exprimé comme il le ressentait, simplement. Quoi. J'ai gagné.
Et ça a été possible comment? Qu'est-ce qui s'est passé entre il y a un an et aujourd'hui?
Il faut casser les murs de l'indifférence. Casser les murs l'indifférence ou c'est comme ça et puis voilà.
Comment tu fais pour les casser, ces murs-là?
C'est en face à face, discussion. On va chercher au fin fond de. J'ai des entretiens régulièrement avec usants, fatigants pour moi et pour la personne qui est en face de moi souvent, parce que je cherche au fin fond du bide de ce que la personne a dans le ventre. Donc tous les non-dits, toutes les frustrations qu'il y a pu avoir. Et voilà, maintenant, t'en es où ? T'en es là, quoi. Où est-ce que tu veux vraiment aller ? C'est quoi ton rêve ? On en revient souvent à cette question-là. C'était quoi ton rêve ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Quel est ton profil ? Et à partir de là, on va bâtir ton projet, quoi. Donc, il faut mettre... Tu sais, c'est comme une maladie. Hein, tant que tu n'as pas mis un mot sur une maladie, tu es dans une approche... qu'est-ce que vous voulez me dire au fond quoi. J'ai ça comme maladie. OK, c'est quoi les solutions ? C'est celle-là. OK, on y va. C'est beaucoup plus simple.
Oui, bien sûr.
Mais il faut le faire.
C'est ça. Et parfois, que ce soit les managers ou même les collaborateurs, n'osent pas forcément.
Non.
Ça, c'est des choses que tu vois aussi. C'est quoi les plus grandes difficultés pour toi aujourd'hui d'un manager en règle générale, de ceux que tu côtoies, de ceux que tu vois, qu'est-ce qu'ils rencontrent comme une grande difficulté ?
La principale difficulté, c'est qu'ils ne comprennent pas que leurs salariés, dans ma cible TPE, les chefs d'entreprise ne comprennent pas que les salariés ne soient pas comme eux. Moi, je m'investis à fond, moi, je travaille à fond, je ne comprends pas, je leur donne. Alors souvent, ils parlent d'argent, quoi. Alors que ce n'est pas un critère. Dans les critères de motivation, c'est le sixième ou septième critère de motivation, l'argent. Donc, il y en a bien d'autres avant. Et ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas un retour d'investissement dans leur entreprise, quoi. Mais ça, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur dessus. Ils ne sont pas formés au management, quoi. Et à partir du moment où tu leur dis, une personne, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin de trouver sa place dans le groupe, elle a besoin d'avoir un projet dans lequel elle va se voir évoluer, dans lequel... quand on fait des études, quoi, c'est des études que j'ai pu lire depuis pas mal d'années, sur l'impact d'un manager sur la psychologie d'un salarié. C'est la deuxième personne la plus importante de ta vie. Numéro un, c'est ta mère, quoi, ta maman. Numéro 2, c'est le manager. Numéro 3, c'est le père. Après, professeur et autres. Quoi. Donc, le rôle, tout à l'heure, quand je disais un manager à charge d'âme, c'est pas à prendre à la légère. Quoi. On a vraiment charge d'âme. Donc, il faut pouvoir, pour ça, casser. Le salarié est différent, je dois le faire progresser, je dois développer son autonomie pour qu'ensuite, il vienne lui-même en prise d'ailleurs d'autonomie. Quoi. Ça, pour aller plus loin dans la discussion, hein, les premières étapes, c'est tout ce qu'on vient de parler. Mm-hmm. Pour moi, l'objectif final, c'est Onesta, l'entraîneur de l'équipe de France de Hand, mm-hmm. qui est l'équipe la plus titrée au monde. Mm-hmm. Ce gars-là, il a tout compris au management. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il a pu dire, de ses livres, etc., quoi. C'est lui, c'est ses équipiers aujourd'hui qui sont en train de dire comment il faut faire pour progresser. Quoi. Mm-hmm. Lui, il est là pour organiser, structurer, coacher, faire en sorte que les gens restent dans les valeurs. Il y a des valeurs qui ont été définies d'ailleurs par l'équipe. Mais après, c'est entre eux, l'émulsion se fait entre eux. Quoi. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de grandir, ils ont trouvé leur place. Ils voient tous un certain nombre de choses. Donc, ils débriefent ensemble du match. Ce qu'il faut faire pour évoluer, pour grandir, pour mieux s'entraîner sur le prochain match, etc. Quoi. Et c'est devenu l'équipe la plus titrée au monde. Mmh, quoi. Mmh. Vous regardez, pour ceux qui sont passionnés de foot, hein, vous regardez la dernière Coupe du Monde de football, vous écoutez un petit peu les émissions qu'il y a pu avoir, et vous allez déceler ça. Quoi. Didier Deschamps était en retrait très souvent, et c'est... les équipiers qui, à tour de rôle, à un moment donné, prenaient la parole.
Le rôle de...
et ils y allaient, quoi. En finale, Drogba, là, qui est ce qu'on appelle un influent, c'est quelqu'un qui a il a galvanisé les troupes. Quoi. C'est pas Deschamps, hein. C'est un joueur qui a parlé aux autres joueurs et qui a galvanisé les troupes. Ils sont devenus champions du monde. On ne devient pas champion du monde par hasard. Ça n'existe pas. Quoi. Donc toutes ces choses-là qui existent depuis des années dans le monde du sport
sont transposables aussi.
Exactement.
Dans l'entreprise.
Ouais, et sans modération. Il n'y a pas à dire « oui, mais eux, c'est des champions du monde ». Non, leurs techniques, elles sont transposables facilement et simplement dans les entreprises. Et vraiment, moi, ça a été sur mes deux dernières activités au niveau national, quoi. J'ai pris un vrai plaisir à travailler parce que j'avais des équipes qui me faisaient progresser, quoi, qui me faisaient performer, qui étaient en phase avec le projet. Elles venaient avec la banane le matin, quoi. Bon, 30 ans avant, c'était pas toujours le cas.
C'était pas toujours ça. Est-ce que tu peux nous partager ? Bon, tu nous en as déjà parlé tout à l'heure, où tu nous disais, j'avançais sans comprendre les autres, et ça, ça a été une grosse erreur. Est-ce que tu peux nous partager aussi quelques erreurs de manager que tu aurais fait, qui t'ont aussi permis de progresser, d'apprendre, et que tu vois aujourd'hui dans ta fonction que certains managers reproduisent cette même erreur et tu sais que ça fonctionne pas ?
Alors, il faut que je fasse le tri, parce que des boulettes, je te dis, j'en ai fait quand même beaucoup.
Alors, on va dire les principales, alors.
Bah, alors, je vais prendre un peu une forme de contre-pied, toi. Dans les erreurs de management que j'ai faites, à un moment donné, c'est j'ai été trop dans le sociable. Deux fois dans ma vie. Les personnes que j'ai vues en face de moi m'ont fait mal au cœur lors de l'entretien. D'accord. Ils avaient des soucis, etc.
D'accord.
Et tout le côté professionnel de est-ce que la personne correspond au poste, est-ce qu'elle a les compétences, est-ce qu'elle a la motivation, la capacité à s'intégrer, etc. J'ai fait abstraction parce que c'est uniquement le cœur qui a parlé. Quoi.
D'accord.
Je les ai prises et bien mal m'en a pris parce qu'ils me l'ont envoyé méchamment dans les dents. Enfin, c'est une forme de contre-pied, quoi. C'est un contre-pied à ta question. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est le management, ça ne s'improvise pas. C'est un travail à faire sur soi, d'abord. C'est ce que tu as très bien dit. Hein. C'est, j'ai fait mes boulettes, ok. J'ai appris de mes boulettes, très bien. Et tous les chefs d'entreprise font la même chose.
Bien sûr.
On apprend, on construit. C'est des méthodes. C'est de la rigueur. C'est des techniques. Et des gens comme toi, comme moi, on est là pour diffuser ce genre d'informations-là, de façon à ce que, bah, plutôt que de refaire les mêmes boulettes qu'on a pu faire nous, ils en font d'autres, hein, mais ils ont été beaucoup plus loin.
Et par rapport à ce que tu dis là, l'exemple que tu dis là, moi j'aurais envie de dire aussi ne pas oublier pourquoi, quand on est manager, pourquoi on fait ce qu'on fait et quel est l'objectif, quel est notre rôle. Et parfois, alors moi qui ai un parcours de RH de quelques années derrière moi, hein, j'ai connu ça aussi, hein, le fait de vouloir, par exemple en entretien, être prise d'émotion pour la personne par rapport à sa situation, etc. Et chercher finalement à vouloir aider la personne, et puis finalement, voilà, je l'ai vécu aussi, hein, ce que tu as vécu, je connais aussi. Et finalement, parfois, il faut savoir se rappeler pourquoi on est là. C'est quoi notre rôle aujourd'hui ? Pas nous en tant que personne, mais dans notre fonction. C'est-à-dire que quand on est manager, on n'est pas non plus là pour sauver les gens. C'est pas notre rôle. Et des personnes qui sont en difficulté, c'est tout honorable de vouloir les aider, les accompagner. Mais en tout cas, dans notre casquette de manager, on n'est pas là pour ça, en tout cas.
Ouais. Mais c'est pas grave. Parce que c'est tout ce qui va faire la différence. Très souvent, ça fait partie de... Il y a peu de temps, j'ai fait une conférence dessus, quoi. Mm-hmm. L'intelligence artificielle, dont on nous bassine à longueur de temps, avec tout ce que ça veut dire. Et pour moi, demain, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va être importante, c'est l'intelligence humaine. On va passer de l'IA, de l'IA à l'IA, quoi. Parce qu'on a le droit de faire des boulettes comme ça. Mm. Parce que c'est ça aussi qui nous fait grandir.
Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait derrière.
C'est ça, voilà. C'est de... Qu'est-ce que ça t'a appris ? Ben, ça m'a appris que derrière, c'est le collectif, que ça m'a appris que derrière, c'est par rapport à une mission qui a été identifiée, la personne, elle doit avoir tel poste, donc telle compétence, telle expérience, tel parcours, tel profil, etc. Et ça, c'est ce qui nous fait grandir. Et c'est le côté passionnant.
Et pour autant, il y a des gens qui ont peur, qui ont peur de se planter, peur de l'échec, peur de... Tu vois, qui n'arrive pas à se projeter, à se dire, ben, je vais y aller parce que même si je me trompe, je vais apprendre de mes erreurs et je vais en sortir grandi, tu vois.
Ouais.
Et d'autant plus dans le monde du travail, puisqu'il y a un enjeu.
Ouais. Hein,
parce que tout de suite, en plus, on part rapidement dans des scénarios un peu catastrophes. Hein, si je me plante, c'est catastrophique, je vais perdre mon emploi. Enfin, tu vois, on peut vite partir dans des scénarios imaginaires. Et souvent, les gens ont peur de se... Est-ce que ça, tu le vois aussi ? Peur d'y aller par peur de se tromper.
Oui, bah ça c'est d'abord ça a été mon lot parce que mon système éducatif, ma scolarité, c'est t'as pas le droit à l'erreur quoi. Et à partir du moment où de 0 à 20 ans grosso modo t'es structuré dans ce genre de schéma là, tu recopies en permanence, tu dupliques ce schéma là. Mais ça, je pense que c'est de moins en moins vrai. Ça se dit de plus en plus parce que les moyens de communication, les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de gens, des grandes personnes, quoi. Mandela et autres, qui ont des phrases qui sont superbes. J'ai tellement appris de mes bêtises que j'espère que je vais en faire encore pendant longtemps, quoi.
Sa phrase, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
Voilà. Ouais. Mais il y a plein de témoignages. Les réseaux sociaux où les jeunes passent leur vie là-dessus le lisent. Moi, je ne les connaissais pas, toutes ces phrases-là, à 20 ans. J'en connaissais
elles
pas autant
que disons qu'elles n'étaient pas aussi facilement accessibles.
Voilà. Et leur façon de se structurer, je pense, évolue de façon qui, je pense, peut être assez intéressante. Parce que, justement, ils se donnent le droit de se planter. Alors après, encore une fois, j'ai pas le culte du plantage, c'est pas ce que je dis. Le tout, c'est de comprendre le pourquoi, du comment je me suis planté. Autoriser aussi, alors ça fait partie du manager, le manager doit se dire, je vais prendre quelqu'un qui va se planter. S'autoriser à penser que l'autre va se planter, quoi. Pas facile, hein.
Non,
parce que c'est son entreprise. Hein.
Ouais.
Et attends, il va se planter, moi ça va me coûter du pognon. Quoi.
Mm-hmm.
Ouais, mais dans ce cas-là, calibre son degré de responsabilité.
Ouais.
De façon à ce que l'erreur ne soit
calibre
pas.
Calibre le plantage.
Voilà. De façon à ce que ça n'a pas d'impact. Mais derrière, valorise ce plantage. Mm. Explique-le. Quoi. Travaille-le plutôt que lui tomber dessus à bras raccourcis et le traiter comme un moins que rien. Tout ce
et
que tu vas obtenir.
Tout de suite la sanction.
Voilà, la sanction ou l'engueulade. Quoi. Dans ce cas-là, pas de souci. Le gars, il prendra plus de risques, mais il ne fera plus rien. Donc
bien
derrière,
sûr.
Tu vas avoir un légume qui va attendre que tu lui demandes quoi. Il va faire ce que tu lui demandes de faire, mais il va attendre. Et tu vas te retrouver avec des équipes qui ne prendront jamais d'initiative, donc tu vas te fatiguer là-dessus, et ça va t'user, et puis tu vas dire, j'ai une équipe de boulets. Ouais, mais c'est peut-être toi qui l'as voulu, cette équipe de boulets, quoi.
Donc là, par rapport à tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, le management efficace, si je comprends bien, c'est déjà comprendre la différence de l'autre, la tolérance, vraiment s'intéresser, mais s'intéresser vraiment à l'autre, à son projet individuel et le faire coïncider avec le projet de l'entreprise. Et accepter aussi que cette personne-là, elle peut se tromper, elle peut se planter. Et dans l'absolu, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait derrière et comment on en fait grandir et l'individu et l'entreprise.
C'est ça, c'est ça.
Okay.
Dans les parties techniques, je ne veux pas rentrer trop souvent dans les parties techniques, mais il y a trois niveaux de délégation. Niveau 1, c'est j'explique à la personne ce qu'elle doit faire,
d'accord.
Je fais avec et on débrief. Niveau 2, j'explique à la personne ce qu'elle doit faire, elle réalise, on débrief. Niveau 3, la personne m'explique ce qu'elle doit faire, elle réalise et on débrief.
D'accord.
Dans tous les cas, il y a le contrôle. Ça, voilà, c'est la confiance, n'empêche pas le contrôle, etc. Ouais. Il faut avoir cette notion de temps en tête. Je recrute quelqu'un, je vais devoir passer par différentes étapes de contrôle, quoi, de délégation. Quoi. D'où l'importance d'avoir des entretiens annuels d'activité dans lesquels voilà, bah, l'objectif c'était celui-ci, aujourd'hui tu rentres en autonomie, demain tu vas devenir proposant, et la personne se voit évoluer.
Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as eu, on a parlé de Mandela par exemple, je ne dis pas que c'est lui, mais est-ce que dans ton parcours tu as eu un mentor, un ou plusieurs mentors, qui t'a vraiment marqué, qui t'a accompagné ?
Non, je n'ai pas une personne particulièrement.
D'accord.
C'est une somme de rencontres.
Voilà. D'accord.
Tu peux lire un livre à différents moments de ta vie et tu vas le voir de façon différente.
Ah oui,
tu vas le lire de façon différente.
Je sais que j'en ai un comme ça, je l'ai déjà lu 5 fois.
Voilà.
Et je pense que je vais le relire encore.
Oui, parce que ta maturité, elle a évolué, donc ta façon de lire les choses a évolué. Et dans la vie, tu vas aussi rencontrer des personnes qui vont être superbes, mais tu as 20 ans et elle va te dire quelque chose, tu ne vas pas le comprendre. Tu vas la rencontrer à 40 ans, elle va te dire la même chose, et là, tu vas prendre en pleine face ce qu'elle va dire, parce que ça, c'est le bon moment,
le bon moment,
endroit, etc. Quoi.
C'est ça.
T'es le terreau, ça y est, il est bon, il est prêt. Quoi.
Un peu comme l'exemple que tu nous donnais tout à l'heure, quand le moine t'a dit aime les autres, aime
c'est
les
ça,
gens.
Ouais.
C'est une phrase qui a été percutante à un moment donné
c'est
dans
ça,
ta vie,
ouais.
Qui ne l'aurait peut-être pas été à 20 ans.
Non.
Et toi, c'est un des conseils qui t'a le plus marqué ?
Oui, parce que je devais avoir 35 ans à l'époque. Entre 40 ans. Je venais d'être. J'étais plus jeune chef d'enseigne en France, directeur commercial et marketing, on va dire, d'un grand groupe. J'avais en face de moi une responsabilité très forte. J'étais à un point de fragilité, on va dire. Et je n'arrivais pas à trouver. Je me disais, mais c'est. J'ai 90 cadres à manager, ils sont tous plus vieux que moi. C'est des gens qui sont expérimentés, je suis le plus jeune, avec un projet colossal, passionnant, hein, parce que c'est une entreprise qui est passée de 100 millions à 1,4 milliard en 10 ans de temps. Donc, projet copieux, quoi. Mais j'avais 39 ans, quoi. Et je me dis, comment je vais faire ? Et je savais que c'était avec l'humain que j'allais gagner. Sinon je perdais. Mais compliqué parce qu'il fallait tout repenser, il fallait tout revoir.
D'accord.
Donc derrière, management de transition lourd. Et voilà quoi, c'était la phrase simple. Il n'y a rien de plus simple. Bateau, aime ton prochain. Quoi. Il y a 2000 ans, il y en a un qui le disait. Quoi. Donc c'est pas nouveau. Et c'était
vrai.
Le bon moment.
D'accord.
Voilà. C'est, okay. Donc non, c'est pas, il n'y a pas une personne. C'est une somme de personnes, pas forcément d'ailleurs des responsables hiérarchiques. C'est pas lié à la hiérarchie.
Non, bien sûr.
C'est toute personne apporte quelque chose.
Apporte quelque chose.
Ouais.
Ouais.
Okay. Ouais.
Au-delà du mentor, est-ce que tu aurais un livre à conseiller ou est-ce que toi, tu en as un qui t'a particulièrement marqué ? Une source d'inspiration ou un film, mais en tout cas quelque chose qui t'a inspiré. Tiens, un livre, toi, que tu as relu plusieurs fois, par exemple.
Alors, il y en a un. Alors là, pour le coup, je vais prendre un coup de ringard total. C'est la Bible.
C'est
la Bible.
La Bible, d'accord.
Ouais, ouais, et tout est dedans.
Ok.
Tu lis à 10 ans, tu le comprends. Tu lis à 30 ans, tu le comprends. Tu lis à 50 ans, tu le comprends, à chaque fois différemment.
C'est ça, de façon différente, parce que tu interprètes, tu donnes un sens différent aux choses.
Ouais. Et il y a cette dimension spirituelle, qui forcément, quoi, l'homme est spirituel, à mon avis, quoi. Sans y mettre de connotation religieuse, je ne suis pas en train de religion, mais la dimension spirituelle de l'homme, pour moi, est importante. D'où l'importance de, quand on rentre en management, on n'a pas quelqu'un d'anodin en face de soi, quoi. Il y a une dimension spirituelle aussi en face. Et cette notion spirituelle, je la trouve en permanence dans la Bible.
D'accord.
Voilà, le bon vieux ringard.
Ouais, non, mais écoute, pourquoi pas.
Tout est dedans.
Il
n'y
a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'absolu à cette question.
Non, voilà, mais j'ai aucun problème avec ça. Non, c'est ma référence, ouais.
Ok, ça marche. Et finalement, c'est c'est tellement en lien avec ce que tu nous dis finalement depuis tout à l'heure, hein, et notamment la phrase M, celle qu'on t'a conseillée, hein, finalement c'est... Mm. C'est cohérent. Ta réponse est cohérente, de toute façon.
Oui.
Et puis, si elle est cohérente pour toi, c'est le principal.
C'est ça. Donc, voilà. Exactement.
Ok. Bah, écoute, un grand merci pour tous ces partages. Vraiment très intéressant. Est-ce
merci
que tu
toi.
Penses qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y aurait une autre idée que tu avais envie de partager avec les auditeurs?
Non, écoute, je pense que maintenant, c'est des rencontres qui se feront, peut-être à l'issue.
Oui.
C'est... voilà, et puis moi aussi, peut-être que j'étais à un moment donné, ils ont entendu quelque chose qui les a intéressés ou pas.
Ça pourrait les inspirer.
Ça pourrait les inspirer ou pas. Mais ça, c'est le,
voilà, chacun
c'est le mystère
choses,
de, ouais, de l'humain. Ouais.
Pour les personnes qui aimeraient te contacter, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Par quel, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Comment on peut te trouver?
Alors, oui, effectivement, je suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn.
D'accord.
J'ai un site sur lequel on peut aller, activecopilote.net.com.
Écoute, je mettrai, je mettrai les références
De
ton profil LinkedIn et du site internet dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent te trouver facilement. Donc, on peut te contacter si les gens ont des questions à poser ou veulent rebondir sur ce que tu viens de nous dire.
Pas de soucis.
On peut te contacter assez facilement, tu réponds.
Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Dans les 24 heures, je m'oblige.
D'accord, tu...
Sauf le samedi dimanche.
D'accord. Mais sinon, tu t'engages à répondre sous 24 heures.
Ouais.
Ok, très bien. Mais écoute, encore merci, vraiment, pour
merci.
Ce partage.
Merci, merci.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Merci.
Merci.
Rebonjour à tous. J'espère que cette rencontre avec Franck vous a plu et vous a inspiré. J'ai longuement réfléchi pour cette deuxième partie d'épisode, car Franck nous a déjà expliqué beaucoup de choses intéressantes. Et aussi parce qu'en termes de management et de bien-être au travail, les sujets sont assez nombreux et en réalité j'ai pas mal d'outils à partager. Il a donc fallu faire un choix. Et pour aller dans la continuité de Franck et alimenter le fait que le management est avant tout une histoire humaine et d'individualité pour le collectif, j'ai eu envie de développer avec vous une notion particulièrement importante et primordiale selon moi, qui est la notion de sens. Le fait qu'un manager est porteur de sens pour son équipe, pour le collectif, mais aussi pour chaque individu. Dans la vie, trouver du sens à son travail est une grande source de satisfaction et d'accomplissement personnel, que ce soit au travers de son métier, de ses activités, des valeurs de l'entreprise ou encore de l'organisation. On entend de plus en plus parler de notions de burn-out, c'est-à-dire l'épuisement lié au stress professionnel. Et il y aura d'ailleurs très très prochainement sur le podcast un épisode consacré à cette thématique. Mais on entend aussi parler de bore-out, c'est-à-dire l'épuisement par l'ennui, et de brown-out, qui est la perte de sens au travail. Dans ce contexte, le manager est un acteur important, pas le seul, mais en tout cas important, et il est appelé à donner ou à redonner du sens pour favoriser l'engagement et la créativité au travail de ses collaborateurs. Pour autant, à mon sens, ce qu'il est important de noter est que le sens peut prendre différentes formes selon chacun d'entre nous. La perception du sens peut reposer sur des activités, sur des tâches, sur des missions, sur des rôles ou sur des relations avec les collègues, par exemple. Et pour le manager, il est indispensable de trouver et de donner le juste sens à chaque individu et à son équipe. Pour cela, je voulais partager avec vous quelques principes de base qui sont au nombre de 7 pour contribuer à donner ce juste sens. Premièrement, il faut faire connaissance avec les collaborateurs. Vraiment, il faut s'intéresser à eux en respectant, bien entendu, la distance nécessaire et l'intimité de la vie privée de chaque personne. En tout cas, l'idée est de comprendre réellement ce qui les anime et ce qui est important pour eux dans leur travail. Deuxièmement, respecter et encourager l'expression des individualités, des différences de chacun, apprendre à valoriser leurs forces pour réussir à créer des complémentarités au sein d'une équipe. Sur le sujet, je vous recommande d'ailleurs d'écouter l'épisode 7 du podcast, dans lequel je fais référence à un exercice de psychologie positive où il est question d'identifier de manière individuelle les forces de caractère. Troisièmement, communiquer de manière claire et authentique. L'idée est de donner régulièrement de l'information et aussi de donner des informations sans les déformer de manière la plus factuelle et concrète possible. Troisièmement, encourager l'initiative individuelle, c'est-à-dire donner l'opportunité à chacun et à son niveau de s'exprimer, de s'engager, de s'investir et d'agir. Tout ceci pour encourager finalement la coopération et le goût de réussir ensemble. Cinquièmement, valoriser et reconnaître la contribution de chacun en donnant régulièrement du feedback. J'ai pu constater en entreprise que le feedback est souvent un sujet sensible, à la fois pour les managers, mais aussi pour les collaborateurs. Soit parce qu'il n'est pas assez mis en œuvre, même lorsqu'il est positif. Soit parce qu'il est vécu comme un exercice difficile lorsqu'il s'agit d'un feedback négatif. C'est un point qui peut se travailler en formation et en coaching. De mon point de vue, tout est une question de forme. Tout peut être dit, pourvu que ce soit dans le respect, dans la bienveillance et de manière constructive. En réalité, il n'y a pas de feedback négatif, il y a simplement des opportunités d'avancer et de faire progresser. Sixièmement, susciter et mobiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'une fois que les forces individuelles sont identifiées, que le sens est donné à chaque personne, il s'agit également de co-construire autour de projets et de visions qui donnent du sens et une finalité positive dans l'action collective. Et enfin, septièmement, accompagner les changements professionnels et organisationnels. Plus le manager est présent et dans l'écoute dans ces moments de transformation, plus les équipes vont se sentir comprises et soutenues, et plus elles auront envie de s'engager. Donc si je résume, voici les 7 clés indispensables pour être un manager porteur de sens. Premièrement, faire connaissance avec les collaborateurs. Deuxièmement, respecter et encourager l'expression des individualités. Troisièmement, communiquer de manière claire et authentique. Quatrièmement, encourager l'initiative individuelle. Cinquièmement, valoriser et reconnaître la contribution de chacun en donnant régulièrement du feedback. Sixièmement, susciter et mobiliser l'intelligence collective. Et enfin, septièmement, accompagner les changements professionnels et organisationnels. Voilà pour ce 12e épisode. J'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Je tenais à vous préciser un point, puisque nous avons abordé tout au long de l'épisode la question du sens de la vie personnelle et ou professionnelle. Sachez que je propose une nouvelle méthode pour travailler ce sujet, soit sous forme d'atelier d'une demi-journée pour les particuliers, soit sous forme de formation pour les entreprises, où j'utilise différents outils et notamment l'outil Ikigai. L'ikigai, c'est justement une technique japonaise qui permet de donner du sens à sa vie et comprendre ce qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est un outil très puissant et très percutant et je vous laisse vous rendre sur mon site internet www.cbcoach.fr si vous souhaitez avoir plus d'informations et notamment pour découvrir les dates des prochains événements. Encore une fois, je vous invite à partager cet épisode si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un et me faire vos feedbacks également. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.